décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 41, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, eh bien, commençons tout de suite, sommaire.
Petite revue de presse, 4 articles cette semaine.
Et on commence avec le Mag IT. Microsoft partage 60 000 de ses brevets avec l'open source par Cyril Chausson.
C'est une grosse nouvelle, Microsoft rejoint loin.
Ils sont loin.
Ils sont loin, c'est l'Open Innovation Network, je crois. Et c'est une sorte de rassemblement d'entreprises qui partagent des brevets logiciels. Un truc qui supposément est interdit en Europe, mais qui existe quand même.
Un truc qu'on n'aime pas.
Et qu'on déteste. Donc il y a 60 000 brevets qui ont été mis en commun par Microsoft dans une sorte d'alliance défensive. Si quelqu'un veut les attaquer, ils peuvent piocher dans ces brevets pour contre-attaquer. Donc c'est rigolo. Puis ça fait encore un geste plutôt positif de Microsoft qu'original.
Ah, surtout qu'on leur reprochait dans leur tournant open sourciste de continuer à déposer des brevets à tour de bras en disant bah, d'un côté ils disent on est copains, puis de l'autre côté ils sont en train de s'armer jusqu'aux dents. Donc plutôt bon signe.
Le Temps, les résistants du logiciel libre, un article de Anouche Settagia.
Ça parle de l'association française Framasoft. Donc des amis qu'on aime beaucoup et qui présentent les services qui sont fournis pour dégoogliser, dégafamiser Internet. Donc des choses super sympathiques.
Voilà, dans la presse suisse.
Le Mag IT, Guillaume Poupard de l'ANSSI, l'open source est dans l'ADN de l'agence, un article de Valérie Marchive.
Donc ça discute avec, alors c'est l'Association Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, donc c'est une institution française qui fait pas mal de trucs en informatique, quand même qui se lance sur un système d'exploitation souverain.
Ouais, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à le déployer, mais là ils l'ont ouvert. Hein.
Et ils travaillent sur plein d'autres logiciels, plein d'autres briques, pour les améliorer et ils les reversent dans le logiciel libre. Donc c'est plutôt sympa de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. C'est pas les premiers à le faire, hein. La NSA aux États-Unis, donc National Security Agency, il me semble, participe aussi à des logiciels libres et recontribue notamment au noyau Linux.
Toi, tu sais nous faire rêver.
Numérama, directive sur le droit d'auteur vers un accord d'ici à fin décembre 2018. Un article de Julien Lausson.
Donc c'est à la suite des directives qui sont en train d'être passées, qui sont en train d'être votées sur l'article 11 et l'article 13.
On en a parlé récemment, oui.
Exactement. Directive sur le droit d'auteur qui étend le droit d'auteur de plein de manières. Ça ne nous plaît pas du tout, du tout, du tout. Donc là, ça a été voté au niveau du Parlement et c'est en train de passer à d'autres instances pour voir justement est-ce que la Commission européenne, le Conseil européen sont d'accord avec ce qui a été voté, est-ce qu'ils vont chipoter, est-ce qu'ils vont remettre en cause la chose. Je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est du domaine institutionnel européen, c'est un peu compliqué.
Donc de quoi on parle ce soir ?
C'est en lien à une actualité qui a eu lieu il y a 3-4 semaines. Alors, le noyau Linux, donc un logiciel majeur développé sur Internet entre 3-4 000 développeurs, il y avait quelques frictions sociales, on peut dire, notamment liées à son créateur, Linus Torvalds, et ça a donné comme résultat la mise en place d'une charte.
Donc déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est que Torvalds était juste imbuvable avec ses contributeurs. Quand quelqu'un venait pour proposer un patch sur le noyau ou autre, on pouvait s'attendre à des mails limite insultants, de la part de Torvalds,
carrément insultant,
en disant...
Quand le code n'était pas de la qualité attendue par Torvalds.
Ouais, voilà, quand ça chatouillait un peu Torvalds, on s'en prenait plein la gueule. Et les gens, du coup, abandonnaient ou ne contribuaient pas parce qu'ils avaient peur, clairement, de passer devant le feu de Torvalds et utilisaient des mots plus que violents.
Il a été contesté, on en avait parlé à intervalles espacés dans la revue de presse avec des gens qui disaient « on ne peut pas bosser avec lui, c'est insupportable, etc. » Et lui disait « j'en ai rien à foutre, l'important, c'est le code, il faut que ce soit bon. » Et si vous n'êtes pas capable d'encaisser, tant pis pour vous. Et je déteste de toute façon le politiquement correct et j'en ai rien à foutre.
Bien, hein. Il a été pris en photo en train de faire un doigt alors des entreprises.
À Nvidia, voilà, qu'il avait fâché, il a fait un gros doigt, voilà. Un type qui a un certain sens de la communication.
On s'en était amusé à l'époque, mais ça n'empêche qu'il a perturbé pas mal de gens, il a fait peur, hein, plein de contributeurs potentiels qu'il a probablement écarté, malgré l'attirance du noyau Linux qui est utilisé partout aujourd'hui.
Et donc la nouvelle, il y a 3-4 semaines, c'est qu'il a pris conscience, semble-t-il, du problème et décidé qu'il allait prendre un peu de recul pour analyser ses comportements.
Il s'excuse.
Et il s'excuse en plus.
Et ça, c'était dans le même temps qu'ils mettent en place un code de conduite sur le développement du noyau Linux.
Oui, alors donc du coup, code de conduite, on se dit, ben oui, c'est bien, parce que effectivement, on a un Torvalds qui se conduit mal, donc si on a un code de conduite, ça permet de réguler ces comportements-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans ce code de conduite de la Fondation Linux ?
Ben, en gros, ça dit qu'il ne faut pas être trop un connard quand on vient dans le noyau Linux.
C'est un bon début.
Oui, normalement, c'est,
voilà,
c'est
qu'on n'a pas le droit d'harceler les gens, on ne doit pas faire de remarques désobligeantes ou d'avoir un comportement déplacé. déplacer envers les semblables. Ça tourne aussi beaucoup autour de la problème de MeToo et de la sexualisation et du sexisme dans l'environnement général et en particulier informatique.
En informatique, on sait qu'il y a une majorité d'hommes.
Voilà. Et donc du coup, bah, faut pas avoir de comportement déplacé, faut pas essayer de toucher les personnes, faut pas utiliser des propos choquants ou autres envers les contributeurs.
Faire des propositions sexuelles malvenues.
C'est ça.
Le fait qu'il y ait cette prise en compte, cette idée qu'il faut mieux gérer les minorités, c'est une bonne chose, c'est plutôt positif.
Alors effectivement, et après ça pose également des questions, c'est-à-dire qu'on va restreindre énormément de choses, et on a d'autres communautés, hein. Les codes de conduite, c'est quelque chose qui se fait dans pas mal de milieux.
On sent une sorte de mode, hein, d'ailleurs, oui, dans le concept.
Tout, à fait. Tout le monde, depuis MeToo, tout le monde en a sorti ou presque.
Hein. Voilà. C'est l'époque qui veut ça.
Alors, un des trucs qui, moi, me pose question, c'est la question du rapport de force. C'est-à-dire que Torvalds, comme beaucoup d'autres, hein, comme Wallstein, sont des gens qui sont en position de pouvoir. Donc, du coup, quand on est en position de pouvoir, on peut se comporter comme des connards, je veux dire, et la présence d'une éventuelle charte ne va pas changer grand-chose. Moi, professionnellement, c'est m'arrivé de me retrouver dans une réunion avec un grand chef, deux femmes qui étaient sous ses ordres à niveau N-1, N-2, et moi qui étais là en fournisseur. Et le type a fait des remarques vraiment super déplacées par rapport à ce truc-là. Et ben, elles ont rien dit. Alors, elles ont rien dit, elles ont gardé un silence froid pour marquer leur désaccord. T'es solidaire là-dessus parce que je trouve ça assez choquant. Mais de fait, ben, c'est leur super chef et elles encaissent, quoi. Et il y a des codes de conduite et des trucs dans la boîte. Et ben, le type, il est grand chef. Pof, ça le concerne pas, quoi.
Après, le but des codes de conduite, c'est aussi justement d'arriver à faire rentrer ça dans la crâne de tous les gens qui vont être autour. Et que, bon, là, quand t'es 4 personnes dans un bureau, ça va être effectivement difficile. Mais dans un événement libriste ou autre, bah, du coup, les autres vont pouvoir dire non, mais ça, ce comportement est pas normal. Et donc, faire la remarque. Et même la personne qui, normalement, devrait être en position de force parce que le grand chef ou autre va se retrouver avec toute la communauté à lui tomber dessus. Et donc, ça va peut-être le calmer. Mais c'est sûr que quand on a juste un supérieur avec des subordonnés, c'est plus difficile.
Dans la relation directe,
ça va pas changer grand-chose en vrai.
Ouais. Après, il y a toute la question de l'interprétation. Qu'est-ce que c'est que une sollicitation sexuelle inappropriée ou malvenue. Quand on lit ces textes-là, ça ne fait référence qu'à des adjectifs. Donc du coup, même en étant de bonne foi, donc quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, on peut vite se retrouver à faire des impairs, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes règles que les autres. Ou alors, on ignore des choses sur la personne qu'on a en face de soi.
Oui, et puis ça dépend aussi du contexte. Si on prend l'histoire de la BSD Con, par exemple, où c'est des orgies à non plus finir, donc, quasiment.
C'est convention BSD, la convention, hein, c'est un autre noyau que voilà.
Qu'est-ce que tu traites de con, hein.
Convention. Qui a lieu, je sais plus, aux États-Unis tous les ans, et c'est apparemment c'est des orgies, il y a des photos qui traînent sur internet et tout ça, et quand on va là-dedans, on est dans un autre mode de pensée, et les comportements qui vont être déplacés dans d'autres conventions ne seront pas déplacés dans cette convention-là. Donc il y a aussi savoir où est-ce qu'on met les pieds.
Il y a un contexte, hein.
Un contexte, et il y aura aussi des choses interdites, forcément. Le viol va pas être autorisé à la BSD Con, mais disons qu'ils ont des mœurs beaucoup plus libres que ce qu'il va y avoir une convention Linux.
Mais est-ce que dans les groupes, on ne se retrouve pas toujours dans une situation où il y a une sorte de majorité qui va écraser une minorité à côté? Enfin voilà, aujourd'hui, la question de l'homophobie est très présente et vraiment rentrée dans les esprits. Et
les orientations sexuelles en général, voilà. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que celle-là.
Voilà. Mais de fait, ça a généré des réactions très violentes chez les gens de la Manif pour tous, etc. Donc il y a une sorte de contre-mouvement, de réaction qui sort de ça. Et mais par le passé, bon, bah voilà, on faisait des grosses blagues pourries. On cite souvent comme exemple les sketchs de Michel Leeb dans les années 80, qui sont super racistes, tout ça.
Ils étaient très drôles.
Et
à
tout
l'époque.
Le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Il y a toujours ce truc de j'écrase les gens dont j'ai même pas conscience de le faire.
Il y a une hiérarchisation aussi dans les minorités à défendre. C'est que avant, effectivement, c'était des problèmes d'homophobie ou autre. Maintenant, on est plus orienté sur le sexisme avec MeToo. Il y a les handicaps. Et en fait, il y a une espèce de gradation dans le. Il y a la transphobie aussi qui est pas mal mis en avant. Mais il y a une espèce de gradation qui est mise en place dans les chartes de conduite. Là, bah, dans celle de Linux, on ne parle que du sexisme. On parle pas du handicap, on parle pas de la transphobie,
on parle
pas
moins.
Ou moins, c'est juste nommé par juste sur une petite phrase. En tout cas, le gros du boulot est sur le sexisme. Mmh. Et du coup, ben, on laisse passer certains problèmes de harcèlement. Ou certains...
Et ça donne l'impression aussi qu'il y a une hiérarchie.
Voilà, qu'il y a une hiérarchie que ben, les minorités minoritaires ben, sont pas pris en compte, ou les gens vont dire non, mais c'est pas grave, il y a plus important devant. Quoi.
C'est une des difficultés et peut-être une faille de certains de ces codes de conduite, c'est le côté liste exhaustive qui ne pourra jamais bien tout couvrir. Il y aura forcément une faille, et donc ça peut créer des problèmes.
Et la faille est d'autant plus forte que si le texte est très spécifique sur certains éléments, bah, la personne qui va arriver avec le truc complètement zarbe, etc., qui dit « mais j'ai le droit d'arriver déguisé en lapin ».
C'est pas dans la liste.
Voilà, c'est pas dans la liste. Et comme votre liste est super précise, alors c'est bien que j'ai le droit de faire mon truc puisque vous ne l'avez pas prévu.
On pourrait rappeler qu'il reste une liste qui est plus forte que toutes les autres, ça s'appelle la loi. Et donc à un moment donné, c'est aussi un bon moyen de retomber sur une base solide qui est en commun à tous. Et cette loi, elle évolue. Les comportements sexistes sont pris de mieux en mieux en compte, il semblerait. Donc on peut peut-être s'attendre aussi à ce que ça rentre dans la société par ce biais-là.
C'est pareil, ça va dépendre du pays dans lequel tu te trouves. Si tu vas faire une conférence en Arabie Saoudite, tu ne vas pas du tout avoir la même loi et les mêmes possibilités que si tu le fais aux États-Unis ou en Corée du Nord. Donc,
On pourrait remarquer d'ailleurs que Donald Trump, c'est l'exemple typique de l'anti-politiquement correct, hein, l'anti-MeToo. Et ce gars-là, il a gagné en partie sur ce discours de « je ne suis pas un hypocrite, moi, je pense ce que je dis ce que je pense ».
Alors, il y a plein de gens qui détestent des catégories entières de population et qui aimeraient pouvoir, et qui le font d'ailleurs, hein, pouvoir se lâcher, etc. Mais il y a aussi ce mouvement inverse, hein, qui est que dans ce système du politiquement correct, il y a aussi des abus. Enfin, alors, toujours dans les incidents concrets, dans mon boulot, il m'est arrivé, il y a des années de ça, à l'époque où j'encadrais du monde, d'avoir une fille que j'avais recrutée qui bossait pas bien. Donc, je fais un entretien pour faire le point et je lui dis « qu'est-ce qui va pas, selon toi? Pourquoi ça marche pas ?» Et elle me dit « c'est parce que je suis une femme ». Et sur l'instant, j'ai pas su quoi répondre. Alors que la moitié de mon équipe était constituée de femmes et qu'il y avait une autre femme qui avait été recrutée en même temps qu'elle, enfin 15 jours près, et avec qui tout se passait bien. Et en fait, j'étais complètement désarmé par le truc. Je lui dis « ah, bah c'est ça ton explication ». Et à un moment, j'étais incapable au final de lui renvoyer l'incohérence de son truc.
Le politiquement correct peut être utilisé dans les deux sens, à tort ou à raison. Je sais aussi qu'on a beaucoup utilisé le terme, il y a eu pas mal de communautés, Mastodon notamment, où ils utilisaient le terme de bienveillance. Et ils voulaient mettre en place et mettre en avant cette bienveillance. Je me demande d'ailleurs si au niveau de nos politiques, il n'y en a pas certains qui se réclament de la bienveillance, mais se réclamer de cette bienveillance, à un moment donné, ça perd tout son sens, parce qu'il n'y a personne qui va se réclamer de la malveillance, et c'est trop facile de juste dire aux autres « vous n'êtes pas bienveillant dans vos actions », soit même on se transforme en quelque chose de terrible.
Et puis surtout, dans le cas de Mastodon, ça avait soulevé aussi le problème des minorités
invisibles.
C'est
un réseau social, un peu l'équivalent de Twitter.
C'est un réseau social, en fait, il y a des espèces de communautés qui sont faites, où il y avait une communauté sur tel langage de programmation, sur telle orientation sexuelle, sur telle problématique de société. Et le problème, c'est qu'en fait, ça masquait complètement les minorités invisibles. C'est par exemple quelqu'un qui, une personne trans, mais qui se voit pas forcément de l'extérieur que c'est une personne trans. Et ben, pour faire valoir ses droits de personne trans, il va falloir qu'elle fasse son coming out public pour dire, mais moi, je suis vraiment une trans, donc j'ai le droit.
Il faut clamer
son appartenance au groupe. Et il y a plein de dérives possibles, puisque on a vu aussi des personnes qui étaient non trans se réclamer trans pour intégrer ces milieux-là. Enfin, c'est un vrai bordel.
C'est de la réappropriation culturelle.
Ouais, et puis c'est surtout que c'est basé. Autant quand on est une femme, ça se voit qu'on est femme ou qu'on est racisé ou autre, autant quand on est trans ou gay
ou handicapé.
Ou handicapé, ça se voit pas. Il y a 80% de la population handicapée qui sont des handicaps invisibles. Et donc, on va pas demander non plus la carte de déclaration de maladie ou.
Mais
ou
pourtant, autre. C'est à ça qu'on arrive.
Bah voilà, c'est à ça qu'on arrive. Mais du coup, il y a ceux qui vont avoir leur carte, ceux qui vont pas l'avoir. Enfin, c'est assez problématique entre les minorités visibles et les minorités invisibles. Et après, il y a aussi les recoupements de communautés. C'est pas parce qu'on est trans, on peut très bien être trans et voter FN, on peut très bien être trans et avoir des idées à la con, on peut être une femme et aussi poser des problèmes dans une communauté. Et par exemple, la code de conduite de Linux risque d'être problématique parce qu'une femme qui va mal se comporter va pouvoir se réfugier derrière en disant « bah oui, mais moi je suis une femme, je mérite le respect et tout ça, et si je fais ça, c'est que c'est moi qui ai raison. »
J'attends le moment où elle va demander à ce que son code soit accepté, alors que il n'était pas forcément efficace.
Mais bon, c'est vrai que les codes de conduite, c'est un peu problématique et il n'y a pas de bonne solution. Il faudrait essayer de mettre un code de conduite général, global, qui se résume à des... en fait, soyez pas un connard, quoi, tout simplement.
On retombe toujours face à un peu cette domination de la norme et à cette question de l'interprétation. Et on a des tribunaux, c'est les institutions qu'on a créées socialement pour gérer les conflits. Et dans un tribunal, la part de l'interprétation est très importante. Et donc, par rapport à tous ces mouvements et au débordement à l'inverse qu'il peut y avoir sur ces codes de conduite et sur le politiquement correct, sur Internet et dans certaines communautés, c'est très très prenant. Il semblerait qu'en Amérique du Nord, notamment dans les universités, ce soit assez important, de ce que j'ai lu. Pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la confusion entre ce qui est statistiquement vrai et ce qui est individuellement pertinent. Et le sexisme, c'est statistiquement vrai. L'inégalité homme-femme, c'est une réalité. Après ça, il y a dans ces raisonnements-là cette confusion de l'individu moyen, ce qui est un non-sens quand on connaît un peu les statistiques, et qui dit, puisqu'il y a du racisme dans la société, c'est vrai. Puisqu'il y a du sexisme dans la société, c'est vrai. Et puis qu'en plus de ça, les jeunes sont précaires, c'est vrai. Alors un homme blanc d'un certain âge, plus de 35 ans, comme on l'est nous, ça devient par définition des oppresseurs. Et donc du coup, on se retrouve à ce que des individus, donc dans une relation inter-individuelle, héritent et se mettent à porter le fardeau d'un environnement collectif. Et comme tu le disais par rapport aux trans ou à n'importe quoi, ça n'est jamais qu'une petite partie de son identité. On est plein de choses à la fois. Et donc du coup, par rapport à cette question de la gestion de conflits, c'est des trucs qui sont aussi vieux que le monde, Et sur Internet, on a cette problématique parce qu'on ne se voit pas en direct, donc on a plein d'informations qui sautent. Il y a pour moi ce truc qui est essentiel, qui est de reprocher des choses à quelqu'un, donc c'est reprocher des faits, et non pas l'appartenance à une catégorie, et ensuite d'interpréter et d'admettre qu'en toute chose, il va y avoir une part d'interprétation dans un sens et dans l'autre.
Je pense que les codes de conduite et le politiquement correct, c'est des changements dans les groupes que l'on connaît et que l'on fréquente, et c'est des changements de mentalité, des changements de façon de percevoir la différence, et je trouve que c'est intéressant. On est dans cette époque où il y a un pivot, on voit que les différences étaient stigmatisées à certaines époques, et aujourd'hui on va essayer un peu, peut-être, on espère, de les accepter, de les intégrer au groupe pour que le groupe s'enrichisse, quoi. C'est quand même bien s'il y a un peu une multiplicité de points de vue plutôt que juste tous les mêmes profils qui sont dans un groupe et qui discutent qu'entre eux. Ça, on a connu ça souvent, et à un moment donné, non, il faut s'ouvrir au reste du monde. C'est peut-être une période de changement.
Et c'est vrai que les codes de conduite dans ces cas-là permettent quand même d'avoir un cadre de confiance et de sécurité pour les personnes qui vont vouloir arriver. Soyez juste pas des connards, comportez-vous comme des êtres humains et considérez l'autre en face comme un être humain, et puis ça, normalement, ça devrait bien se passer.
Très bien, bon, on va essayer de faire ça cette semaine, hein, on verra ce que ça donne.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Bonne semaine à tous.